Vous allez bien, frères et sœurs? Voilà, brise légère, c'est pas mal.
Le Seigneur est bon, hein. Il y a un peu plus de vent que pendant la semaine. On a toujours peur de la pluie, mais en fait, ça peut faire du bien de temps en temps. On se réjouit que pour l'instant, il pleuve.
C'est pas le cœur de mon homélie, je vous rassure. Nous fêtons donc Saint Jean-Baptiste, une belle figure, et je vous souhaite une bonne fête à tous les gens.
Ceux qui s'appellent Jean, ils ont la chance, ils peuvent pratiquement avoir une fête tous les mois.
Et là, c'est Jean le Baptiste. Et c'est assez rare que nous célébrions une naissance. Je crois que dans la liturgie, il n'y a que trois naissances que nous célébrons. La naissance de Saint Jean-Baptiste, 6 mois avant la naissance de Jésus, et puis la naissance de la Vierge Marie. Mais la Vierge Marie, ce n'est pas... Je pense que ce n'est qu'une mémoire, peut-être une fête, mais là, c'est une solennité. Donc nous professons, nous célébrons solennellement la fête du Baptiste, la naissance du Baptiste. Et j'aimerais donc, dans cette homélie, reprendre trois aspects. D'abord, cette insistance sur la naissance, sur la vie naissante, et à travers cela, de voir la beauté de chacune de nos vies. Et puis de voir, peut-être en faisant référence à un autre texte qui n'est pas cité ici, mais comment cet appel du prophète de Baptiste à être un prophète qui désigne l'agneau de Dieu, ce que nous entendrons tout à l'heure pendant la messe, voici l'agneau de Dieu. Et puis de contempler cette joie que procure le Baptiste autour de lui, la joie de cette naissance
pour sa mère, pour son père, pour tout l'entourage. Tout le monde se réjouit, tout le monde est dans l'action de grâce.
Alors d'abord, de prendre le temps de contempler la naissance. Vous avez remarqué dans les lectures qu'on entend, il y a une insistance sur l'enfant dans le sein de sa mère, avec la relecture d'Isaïe. Il est déjà né, hein, quand il dit ses paroles, mais il contemple son propre chemin, et il dit « J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé, j'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. »
Et maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère.
Et nous entendons dans le psaume « Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Cette insistance de tous ces versets. Et c'est assez rare de contempler l'enfant dans le sein de sa mère. Et voilà, tous ces versets bien sûr nous rappellent ce passage qui précède la naissance du Baptiste. Quand Marie vient visiter Élisabeth et que les enfants Baptiste tressaille dans la présence du Seigneur, comme disait le père Daniel Ange ce matin, c'est la première échographie, puisque Marie, qui a fait un acte de foi envers l'ange, n'avait aucune preuve de cette conception de Jésus. Et c'est quand elle arrive chez Élisabeth que tout s'active, toutes les machines commencent à trembler. Voilà, là, il y a quelque chose de spécial qui se passe, qui arrive devant nous. C'est la mère du Seigneur. Mais de contempler sa propre vie, vous voyez, avec tous ces mots, appelé, il a prononcé mon nom, il m'a formé pour que je sois son serviteur, il m'a créé, il m'a tissé, il m'a façonné. La beauté de cette vie, de chacune de nos vies. Et quand je vous dis ce texte-là, le texte d'Isaïe, justement, c'est un homme déjà âgé, il est déjà prophète depuis un moment, quand il fait une relecture de sa vie. Et bien, je vous inviterai peut-être, frères et sœurs, aujourd'hui à faire cela. Peut-être à vous approprier ces mots, à faire mémoire du moment où vous étiez dans le sein de votre mère. Vous vous en souvenez, hein? Non? Vous allez dire, ouais, Seigneur, à un moment, j'étais dans le sein de ma mère. Et ce psaume-là, le psaume 138, qui nous dit, mais c'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère, et dit même, avant même qu'elle sache qu'elle était enceinte, toi, tu me voyais. Vous voyez, et on sait maintenant... Combien d'années, 2000, 3000 ans après ce texte, eh bien qu'il y a un temps, il faut du temps, il y a quelques jours avant que la mère se rende compte qu'elle est enceinte. Eh bien dans ce jour, le seul qui connaît cette présence, dit le psaume, donc 3000 ans avant, eh bien le Seigneur déjà te voit et te contemple, il prononce ton nom, il t'a déjà appelé. La beauté de chacune de nos vies, la beauté de chacune de nos vies que nous sommes invités à contempler, et du coup la merveille que nous sommes. Je te rends grâce, Seigneur, pour la merveille que je suis. Vous voyez, c'est pas seulement un nombrilisme, on va pas passer sa journée à se regarder le nombril en disant je suis beau, voilà. Mais prendre le temps quand même de s'émerveiller, parce que souvent on le dirait pas trop. Voilà, on voit tout ce qui va pas, tout ce qui est encore à convertir. Et pourtant, nous sommes invités à nous émerveiller devant l'être étonnant que vous êtes, que je suis. Merveille que tes œuvres, Seigneur.
Merveille que nous sommes chacun de nous. Voilà, donc je voudrais vraiment dans cette dynamique pour nous-mêmes qu'on puisse se rendre grâce. Vous voyez, le témoignage de cet enfant dans le sein de sa mère qui est un témoin pour nous. Voilà, avec la souffrance aussi que nous pouvons vivre à plein de niveaux, comme Élisabeth qui a mis du temps à enfanter. Voilà, la souffrance, les larmes qu'elle a pu avoir, et puis pour la souffrance qu'il y a pu avoir pour une mère de perdre un enfant. Voilà, la souffrance aussi aujourd'hui dans cette société de cette vie naissante qui n'est pas forcément accueillie. Pourtant, chaque être est une merveille de Dieu et demeure une merveille de Dieu. Et Dieu le voit et le contemple et l'appelle. Donc, rendre grâce, frères et sœurs, pour Dieu qui nous forme et qui nous façonne pas à pas, qui nous crée. Deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est cette figure du prophète. Justement, qui ne se désigne pas lui-même. Le Baptiste, au début de Saint Jean, nous l'avons entendu ce matin dans le temps de prière, de lecture que nous avons fait, à la fin du texte, quand on vient lui demander « Qui es-tu ?», il ne dit pas « Je suis quelqu'un d'extraordinaire, je suis le prophète du Très-Haut », pourtant son père avait déjà eu un beau texte sur lui. Là, il dit « Je ne suis pas ». Es-tu le Christ ? Je ne suis pas. Es-tu un prophète ? Je ne suis pas. Élie ? Non. Et j'ai fait une erreur ce matin, si vous avez entendu. Que dis-tu de toi-même ? Et je dis, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. En fait, il ne dit pas je suis, il ne dit jamais je suis. Parce que je suis, c'est le nom de Dieu. Et justement, il n'est pas, comme disait le cardinal Parbarin hier. Non pas moi, je, mais je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas. Et voici l'agneau de Dieu. Le prophète ne ramène pas à lui-même. Et personne d'entre nous, nous sommes tous appelés à être des prophètes ici. Et ce lieu est un lieu de prophétie. Dieu est venu parler en ce lieu. Et en même temps qu'il ne ramène pas à lui-même et qu'il ramène à plus loin, qu'il ramène à Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Et nous avons toujours cette mission de conduire à l'agneau. Voilà ce que vous rencontrez, ce que nous rencontrons les uns et les autres, qui aspirent, qui cherchent. Nous sommes invités à leur désigner l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. C'est ce que nous vivons dans l'Eucharistie. Nous allons avancer dans cette Eucharistie pour arriver au Christ présent dans l'Eucharistie et nous allons entendre « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Rien n'est centré sur autre chose que la personne de Jésus. Et nous, nous ne voulons conduire qu'à Jésus. C'est lui seul qui peut combler les cœurs. Et dans cette vocation du prophète, en même temps, il y a aussi un amour tout particulier de Dieu et de Jésus pour le prophète et pour chacun de nous. Vous voyez, dans le texte d'Ésaïe, on entend cette parole assez étonnante. Il a fait de ma bouche une épée tranchante, il m'a protégé par l'ombre de sa main, il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a serré dans son carquois. Alors, voilà, vous êtes comme une flèche dans le carquois de Jésus. Et avec sa flèche, il la serre contre lui. Et il dit, où est-ce que je vais la renvoyer, cette flèche? Est-ce que, comme un prophète, on va se laisser diriger? Est-ce que je dis, Seigneur, ben voilà, tu m'as dans ton carquois et tu peux me lancer où tu veux, là. Dans quelle direction? J'irai. De toute façon, je me suis mis dans tes mains. Et donc, mais de voir cette affection, cet amour de Dieu pour son prophète. De prendre le temps de contempler l'amour de Dieu pour vous. Cette amitié, à la fois nous sommes centrés sur le Christ, mais à la fois le Christ aussi a ce regard sur chacun d'entre nous. Troisième point que je voudrais évoquer maintenant avec vous, c'est la joie qu'il y a dans la naissance du Baptiste. La joie qu'il y a dans la naissance de cet enfant, et plus largement, la joie qu'il y a dans cette présence du prophète. Avec cette question, qui sera donc cet enfant? Que sera donc cet enfant? La joie, elle est manifestée, je pense que c'est d'abord la joie d'Élisabeth. Ses voisins, sa famille, apprirent que le Seigneur lui avait prodigué sa miséricorde et il se réjouissait avec elle. Se réjouir, frères et sœurs,
pour la vie naissante avec les mères et en même temps se réjouir aussi de comment elles sont transportées, comment elles sont. Un enfant nous dépasse et va nous conduire sur un chemin qu'on n'attend pas toujours. Peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a la joie d'enfanter, la joie d'accueillir, et puis après, ben, la suite du chemin n'est pas toujours facile et paisible. N'est pas dans la même joie que la joie de la naissance, même s'il y avait quelques douleurs aussi la naissance. Et certaines peuvent expérimenter un peu comme le dit l'Écriture, les douleurs de l'enfantement qui durent. Vous voyez, je suis mère, j'ai eu la joie d'enfanter il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, et 40 ans plus tard, ben, je vois que j'ai toujours une douleur d'enfantement. Mon fils, ma fille, c'est pas toujours comme je l'aurais vu. Et en même temps, où est-ce que le Seigneur, tu veux me conduire à travers mon enfant? Sur quel chemin tu veux me conduire? La joie d'Élisabeth, la joie de Zacharie. Alors, la première joie de Zacharie, c'est qu'il va enfin pouvoir retrouver la parole. Ça fait 9 mois qu'il ne parle plus. Parce qu'il n'a pas cru, il était heureux enfin d'avoir une tablette, écrire son nom et Jean, et de pouvoir retrouver la voix, la joie du Père, de voir son fils, la promesse s'accomplir. Vous voyez, Dieu a dépassé l'attente de Zacharie. Zacharie ne s'attendait pas à ça. Et il s'est laissé dépasser par cette bonne nouvelle. Et nous demandons la grâce au Seigneur de nous laisser dépasser nous-mêmes. Vous voyez, par tout ce qu'il met devant nous, par les prophètes qu'il met autour de nous. On puisse laisser bousculer, dépasser par eux. Enfin, la joie des voisins et de l'entourage. Frères et sœurs, Dieu veut que le monde soit dans la joie. Dieu veut que le monde se réjouisse. Et pour ça, pour cela, il envoie des prophètes. Et si j'ose le dire, il vous envoie. Il vous envoie pour mettre de la joie. On donne le nom de l'enfant. On dit que le nom de l'enfant, il s'appellera Jean. Jean, ça veut dire Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Eh bien, frères et sœurs, à travers chacune de vos vies, Dieu veut faire grâce. Dieu veut donner sa grâce. À travers chacune de vos vies. Et en particulier, à travers ceux qui disent « Oui, mais pas moi. » Eh bien, si. À travers vous, Dieu veut faire grâce. Maintenant, comment? J'en sais rien. Et c'est pas moi qui vais vous le dire. Et plongeons dans ce cœur à cœur avec Jésus, là, dans la prière, dans le silence, en demandant, Seigneur, où est-ce que tu veux que je fasse grâce? Comment tu veux que je fasse grâce? Ou Seigneur, je me sens pas vraiment un canal de ta grâce, mais tu veux faire grâce à travers moi, tu veux que le monde se réjouisse. Si frères et sœurs, chaque jour, nous puissions permettre à une personne de se réjouir, pas toujours en lui parlant de Jésus, pas besoin de mettre Jésus à chaque phrase, pour que quelqu'un se réjouisse. Des fois, ça va l'énerver un peu. Si vous rajoutez Jésus à chaque fois, il va dire, oh là là, j'en ai marre. Là, il vous voit, il va arriver avec Jésus tout de suite, là. Dans 3 secondes, il me parle de Jésus. Et bien, peut-être que la joie qu'il aura ce jour-là, c'est que vous ne lui parlez pas de Jésus, mais vous lui fassiez le plus beau sourire que Jésus pourrait lui faire, sans lui dire. Voilà. Eh bien, mais ayons ce souci-là, frères et sœurs, notre temps a besoin de la joie. Père Daniel Ange parlait des prophètes de la joie. Nous puissions être des prophètes de la joie, simplement. Vous voyez, avec notre quotidien qui n'est pas évident, mais qu'on puisse rentrer dans ce chemin. Voilà, frères et sœurs, simplement, je voudrais terminer par ces mots de la deuxième lecture. David était un homme selon le cœur, était un homme selon son cœur. J'ai trouvé David, mon fils de Jessé, c'est un homme selon mon cœur, il accomplira toutes mes volontés. C'est une grâce qu'on entend ici, quand Jésus dit à Marguerite Marie, mon cœur est passionné d'amour pour toi. Voilà, c'est une femme selon son cœur. Mais, frères et sœurs, vous êtes aussi des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, qui veut façonner, qui veut modeler de plus en plus. Alors, soyons dans l'espérance et dans la joie, parce que Dieu nous appelle. Il nous sert contre lui, et il veut nous envoyer pour... consoler les hommes et les femmes qui nous entourent, être des prophètes de la joie. Seigneur notre Dieu, par l'intercession de Saint Jean-Baptiste et de tous les prophètes qui nous ont précédés, accorde-nous pour notre temps des prophètes de ton cœur, des hommes et des femmes selon ton cœur, qui puissent faire en sorte que les voisins et l'entourage se réjouissent à leur présence. Amen.